vous propose de démarrer cette séance qui va s'étaler en fait sur deux séances, celle-ci et celle de la semaine prochaine où on revient donc au mercredi, exceptionnellement c'est un lundi. Alors, plusieurs choses. Pour ceux qui sont fidèles à ce cours, le mot de ribonucléotide réductase n'est pas nouveau. J'en reparle cette année, après en avoir consacré un cours spécifique il y a une dizaine d'années. Pratiquement, lorsque je fus nommé professeur au Collège de France, j'en ai parlé. Évidemment, l'objet, c'est de vous montrer comment les choses ont évolué dans ce domaine. Alors, les ribonucléotides réductases, parfois condensés sous le nom de RNR, ça sera plus facile, c'est un monde assez incroyable de diversité enzymatique, et avec des résultats, y compris récents, assez étonnants, de sorte que l'histoire n'est pas finie, probablement. Mais voilà, c'est un monde dans lequel je suis rentré il y a très longtemps, et évidemment j'ai une affection toute particulière pour ces systèmes enzymatiques, et c'est pour cette raison que j'en parle finalement relativement régulièrement. Et au cours de cette première heure, je vais surtout vous redonner la base de ces systèmes, et les nouveautés essentielles apparaîtront au cours suivant. C'est une histoire qui démarre dans les années 60, comme beaucoup de systèmes de biosynthèse de l'ADN. Hein. La deuxième remarque, c'est que grâce à la première découverte de la ribonucléotide réductase, on est tombé dans ce qu'on appelle les enzymes radicalaires, les enzymes qui fonctionnent uniquement grâce à la formation intermédiaire de radicaux organiques. Et ceci était une vraie révolution puisque, comme on le dit encore aujourd'hui, les radicaux, ces espèces extrêmement réactives, sont considérées plutôt comme des entités, continuent d'être considérées plutôt comme des entités toxiques pour le vivant, tandis que ce que nous révèlent les ribonucléotides réductases et d'autres systèmes qui sont venus après, la nature choisit de faire de la chimie radicalaire, c'est-à-dire de produire des radicaux organiques qui servent à la réaction biologique et au métabolisme. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux de faire suivre mon cours par un séminaire qui sera donné donc par Myriam, Zeman, tu nous diras, qui va nous parler d'une autre famille de protéines fer soufre qui met en œuvre des espèces radicalaires. Enfin, elle va nous raconter où est-ce qu'on en est dans ces systèmes qui, en effet, ont des applications pour le coup, mais ça sera le cas de la ribonucléotide réductase, je l'évoquerai aussi dans le domaine de la santé. De nouvelles cibles qui sont des cibles thérapeutiques, c'est toutes ces enzymes dont on va parler. Alors, évidemment, il faut se rappeler tout ça. On est dans le domaine du métabolisme des nucléosides et des nucléotides. Je vous rappelle la chose suivante, c'est qu'un ribot avec un OH en position 2', ici du ribose, ou un désoxyribonucléoside déoxy, parce qu'il n'y a plus de OH ici, il y a un H, retenez tout ça, c'est la différence entre ribose et désoxyribose. Donc les nucléosides sont ces entités qui associent donc un ribose à une base nucléique, et qui ensuite peuvent être phosphorylés diversement, donc avec des monophosphates, des diphosphates, des triphosphates, et ceci a une importance, puisque je parlerai de façon variable de diphosphates et de triphosphates dans le cas des chimies des ribonucléotides réductases. La base, vous les bases, vous les connaissez, hein, il s'agit de l'adénine ou de la guanine, qu'on retrouve aussi bien dans l'ARN que dans l'ADN, et les pyrimidines, cytosine et uracile dans l'ARN, et cytosine et thymine dans l'ADN. Voilà, ça c'est la base. Ce sont des molécules évidemment essentielles à la vie, et en particulier, bien sûr, parce que ce sont les précurseurs de l'ADN et de l'ARN. Ici, c'est de l'ADN, et c'est pour cette raison que vous voyez, dans cette position-là, il n'y a pas de OH, il y a un H, et bah, vous connaissez tout ça, je ne rentre pas dans le détail. En effet, pour que l'ADN se produisent, pour qu'il y ait réplication, donc synthèse d'ADN, réplication, prolifération cellulaire, évidemment, vous comprenez qu'il faut synthétiser de l'ADN, et donc il faut synthétiser les précurseurs de l'ADN, que sont ces nucléotides qui forment ce polymère. Donc ce sont les monomères du polymère. Et donc la question qu'on va discuter aujourd'hui, c'est comment la nature fait pour synthétiser les désoxyribonucléotides. Alors je dis bien tides, c'est-à-dire que de toute façon les substrats de l'ADN polymérase sont des formes triphosphates. Donc ce n'est pas des nucléosides, c'est des nucléotides. Et ce qui a été découvert, qui est la clé de cette histoire, ce qui a été découvert, c'est le fait que ces désoxyribonucléotides sont exclusivement synthétisés dans le vivant par réduction, remplacement de cette liaison carbone-OH en carbone-H, c'est une réduction à deux électrons, une réduction du ribonucléotide correspondant. Alors que ces molécules-là sont les précurseurs de l'ARN, eh bien, d'une certaine façon, ces ribonucléotides, ribo, je dis bien ribo parce qu'il y a une liaison carbone OH ici, ces ribonucléotides sont aussi les précurseurs de l'ADN, moyennant cette transformation qui n'est possible que grâce à une enzyme qui s'appelle la ribonucléotide réductase et dont je vais discuter des différentes formes. À nouveau, vous remarquerez que les chaînes d'acides nucléiques, que ce soit ADN ou ARN, se ressemblent, à l'exception, à nouveau, d'une liaison carbone-OH ici et d'une liaison carbone-H ici, et la différence aussi de présence ou non d'uridine ou de thymidine. Ce qu'il faut bien, il y a des gens qui se sont posé la question, ce qu'il faut bien éliminer définitivement, c'est que l'ADN n'est pas produit par réduction de l'ARN. Il n'y a aucune enzyme pour le moment qui a été découverte qui prendrait de l'ARN comme substrat pour transformer cette liaison carbone-H en carbone-OH en carbone-H. Donc, à nouveau, ce n'est qu'à partir des monomères que tout ça se produit. Alors ça a eu... Cette notion que chez tous les organismes vivants, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on passe de façon obligatoire à partir par les ribos avant de faire des désoxyribos. C'est cette notion que qui est maintenant relativement acceptée, que du point de vue de l'évolution, l'ADN est un produit tardif de l'évolution, que la vie a commencé à fonctionner uniquement sur la combinaison d'ARN qui fournissait l'information génétique et, pendant quelque temps, la catalyse, puis ensuite transformation en protéines, qui, évidemment, sont mieux adaptées pour faire de la catalyse. Et donc, on parle d'un monde à ARN protéines. Et le monde à ADN, qui est le nôtre actuellement, est beaucoup plus tardif. Et c'est ce monde dans lequel nous sommes où on a rajouté, dans cette ligne-là, de l'ADN, où l'information génétique est maintenant portée par l'ADN et pas par l'ARN, où l'ADN retrouve le schéma ici ARN protéine catalyse, par la transformation, la transcription de l'ADN en ARN. Je ne fais pas un cours sur l'évolution, mais y a tout un tas de raisons pour lesquelles il y a un intérêt à passer au monde à ADN. Quelques éléments ici sont très simples, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. L'ADN est plus stable que l'ARN, la réplication est plus fidèle, la réparation est possible, enfin, etc., etc. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Mais évidemment, vous comprenez bien que pour qu'on passe de ce monde-là à ce monde-là, c'est-à-dire un monde dans lequel il n'y a pas de désoxyribonucléotide, il faut qu'à un moment donné de l'évolution, il y ait une activité qui apparaisse sur la Terre, fournie, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, par un virus, par une bactérie, par je ne sais quel organisme vivant. Il faut qu'à un moment donné apparaisse la capacité de transformer les désoxyribonucléotides, les ribonucléotides, pardon, ici, en désoxyribonucléotides. Et ça, c'est une des choses parmi les plus importantes, il y en a plusieurs, mais que contient cette ribonucléotide réductase, c'est l'enzyme qui a permis à un moment donné de l'évolution de produire dans des êtres vivants des désoxyribonucléotides et donc permettre qu'apparaisse l'ADN par polymérisation de ces molécules. Donc c'est évidemment, du point de vue de l'évolution, quelque chose de très très important. Dans l'histoire de la ribonucléotide réductase, alors je vais parler d'un très grand nombre de classes de ribonucléotide réductase, parce que, comme vous le verrez la semaine prochaine, à partir des années 2008, 2009, 2010 et jusqu'à aujourd'hui, sont apparues tout un tas de nouvelles classes de ribonucléotide réductase. Alors que pendant longtemps, on n'a parlé que de la classe 1, même si ici je vais l'appeler 1A, parce que vu les connaissances que nous avons aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs classes 1, jusqu'à il y a 1A, B, C, D, E aujourd'hui. Mais pendant longtemps, il n'y avait que 1A, et je vais parler des classes 2 et 3 qui sont arrivées après, et je m'arrêterai là pour ce qui est de ce que je veux vous raconter aujourd'hui. Voilà, le grand découvreur des ribonucléotides réductases, celui qui s'est posé la question, mais comment on fait pour synthétiser les désoxyribonucléotides, et qui a découvert que ça ne se passait que par réduction d'un ribonucléotide, et qui a isolé pour la première fois une activité ribonucléotide réductase et isolé la protéine correspondante, c'est Peter Richard. Voilà, Peter Richard, juif autrichien qui a quitté l'Autriche avec ses parents au moment de la guerre pour aller en Suède et qui est resté en Suède et qui est devenu suédois et qui a travaillé presque toute sa vie à l'Institut Karolinska à Stockholm et avec qui j'ai eu la grande chance de travailler, que je considère comme un des grands biochimistes du XXe siècle. Et c'est lui donc qui, vous voyez, en 1960, montre qu'il y a une activité ribonucléotide réductase et qui, vous voyez, à la fin, 10 ans plus tard, c'était une époque, hein, évidemment, il n'y avait aucun génome de connu, hein, il fallait sortir la protéine d'un jus cellulaire dans lequel aucune protéine n'était surexprimée. Donc, à purifier la ribonucléotide réductase des Escherichia coli, qui est en fait l'association de deux dimères. Un dimère qui est alpha 2, je dis ça parce que vous allez le reconnaître souvent, et qui est parfois appelé protéine R1, et un dimère bêta 2 appelé la protéine R2. Et un peu après, presque 10 ans après, enfin entre 5 et 10 ans après, c'est cette formidable découverte que la ribonucléotide réductase n'est active que parce qu'elle a sur une tyrosine particulière de la protéine R2, elle a une tyrosine qui est sous forme radicalaire. Vous voyez, une tyrosine, il y a un phénol OH, et ici c'est un radical, c'est-à-dire que la tyrosine a été oxydée à un électron. Et ce radical est parfaitement stable, c'est-à-dire que quand vous faites attention, vous purifiez la protéine, vous avez une protéine qui contient un radical libre. Et ça, évidemment, ça a été... les gens, en particulier Peter Richard et Anders Scherenberg, qui étaient le biophysicien qui faisait de la spectroscopie RPE, qui voyait ce signal RPE, parce que c'est une espèce paramagnétique, qui voyait ce signal RPE montrant une espèce paramagnétique, d'ailleurs qui a été longtemps attribuée à un métal, parce que tellement c'était incroyable qu'il puisse y avoir un radical stable dans la protéine. Évidemment, ces personnes-là ont été longtemps attaquées sur le fait que c'était impossible que ce soit un radical. Or, c'est un radical parfaitement stable et qui est absolument essentiel pour l'activité enzymatique. Je n'aurai pas l'occasion de le redire, mais je le dis à cette occasion. C'est assez fascinant, si vous voulez, que la biosynthèse de l'ADN dépende de la présence ou non d'un atome d'hydrogène, d'un seul atome d'hydrogène, sur un acide aminé d'une protéine qui est la protéine R2. Quand il y a un atome d'hydrogène à cet endroit-là, il n'y a pas de prolifération cellulaire possible, il n'y a pas de vie. Quand on arrache un atome d'hydrogène ici, la vie est possible. C'est assez impressionnant comme concept. Alors, évidemment, il y a eu de nombreux travaux ensuite sur la protéine pour essayer de comprendre comment ça se passait. Et là, il y a eu une nouvelle, un nouveau choc, d'une certaine façon, qui a été en particulier fourni par de la biologie structurale. Et les premières protéines R1 et R2 cristallisées et caractérisées par cristallographie des rayons X, c'est essentiellement Hanks et Eklund qui travaillaient à Uppsala, toujours en Suède, dans deux papiers, Nature en 1990 et Nature en 1994. Eklund a donc produit la structure de la protéine R1 et de la protéine R2 séparées. Cette image que vous voyez ici n'a jamais, enfin, à ce moment-là, n'a pas été obtenue telle quelle. C'est un modèle où on a fait du docking entre la protéine alpha-2 qui est ici et la protéine R2 qui est ici. Donc un dimère alpha-2, donc R1 ici, vous voyez, et un dimère bêta-2 qui est R2 ici. Donc pendant longtemps, enfin je vais vous tout de suite le dire après, pendant longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 2020, puisque c'est en 2020 qu'a sorti un papier dans Science qui a produit pour la première fois une structure de l'holoenzyme, c'est-à-dire alpha-2, bêta-2. Mais jusqu'en 2020, c'était ça le dogme, une structure parfaitement symétrique où R2 était placé ici, vous voyez, sur la base de la complémentarité des formes et des acides aminés. C'est ça la structure. Et c'est cette structure-là qui a alimenté pratiquement pendant 20 ans la recherche sur les mécanismes de réaction de ce système enzymatique. Alors, quand on s'est retrouvé confronté à cette structure, le choc dont je vous parlais est le suivant. Ici, vous avez le site actif de l'enzyme. C'est là où se fixe, voilà, le, vous voyez, GDP, le ribonucléotide. En fait, c'est un diphosphate, parce que dans cette enzyme, c'est un diphosphate qui est le substrat, vous voyez, donc le ribonucléotide ici ou là. Et le radical organique, la fameuse tyrosine dont je vous parlais, eh bien, n'est pas du tout à côté sur la protéine R1. Ça, on savait qu'elle était sur la protéine R2, mais le site de substrat est sur la protéine R1. Et en fait, le radical est ici. Et la distance entre le site actif et la tyrosine, qui est absolument essentielle à l'activité, est de l'ordre d'une 35-40 angstrom de distance. Donc, connaissant la réactivité des radicaux, c'est-à-dire qu'un radical, en gros, ça arrache un atome d'hydrogène, c'est ça qu'un radical sait faire. Et évidemment, il n'y a aucune possibilité pour que cette tyrosine soit en contact avec le substrat pour l'activer et pour faire de la chimie. La deuxième remarque, on le savait avant, j'aurais dû le mentionner ici, c'est que la ribonucléotide réductase est aussi une métalloprotéine, c'est-à-dire qu'elle contient un centre métallique, et ce centre métallique est ici sur la protéine R2. Et voyez ici la structure cristallographique, ce sont deux atomes de fer qui sont coordonnés par des acides aminés très... Une histidine et le reste, ce sont des aspartates et des glutamates, donc un environnement très oxygéné et très proche de la tyrosine. Ces atomes de fer sont très proches de la tyrosine qui est radicalisée, et je reviendrai sur cet aspect. Mais ce que démontre cette structure, c'est qu'il faut trouver un moyen de connecter le radical tyrosinyl qui est ici au substrat. Et ça, ça a été le travail de, je dirais, pratiquement 30 ans, de Johann Stube, qui est professeur au MIT, qui est une chimiste, qui s'est intéressée à ces problèmes de transfert de radicaux à très longue distance, et qui continue d'ailleurs, qui est sûrement émérite au MIT. Et c'est elle qui a décortiqué le mécanisme de transfert de radical de cette tyrosine à une cystéine ici qui est très proche du substrat, de sorte que à travers tout un tas d'acides aminés très spécifiques, très conservés, des tryptophanes, des tyrosines, et puis cette cystéine parfaitement conservée, mais maintenant qui se trouve ici, les radicaux ont pu déplacer, un radical a pu se déplacer sur 35 angstroms. Et ça, ça a été évidemment quelque chose d'absolument formidable comme démonstration. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent il n'y a pas d'autres systèmes qui transfèrent des radicaux à si longue distance que la ribonucléotide réductase. On peut se demander pourquoi, pour un système aussi important que la biosynthèse de l'ADN, la nature ait choisi des enzymes radicalaires les radicaux sont difficiles à contrôler, peuvent déclencher des réactions parasites irréversibles, et en même temps, par le biais de ce type de mécanisme, c'est peut-être la façon de contrôler ces radicaux. Néanmoins, l'étape suivante, ça a été de passer à un autre concept que transfert de radical. Parce que quand on dit transfert de radical, c'est un radical qui arrache un atome d'hydrogène, vous voyez, donc vous créez un radical sur l'acide aminé suivant. Ce radical lui-même peut aller arracher un atome d'hydrogène sur un autre acide aminé, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous voyez qu'un radical peut se propager, c'est par le biais de transfert d'atomes d'hydrogène. En réalité, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'un certain nombre d'acides aminés ne fonctionnent pas comme donneurs ou accepteurs d'atomes d'hydrogène, mais on parle plutôt transfert d'électrons couplé à un transfert de protons. Donc c'est ça qui se passe en réalité, c'est que à partir d'une espèce radicalaire ici, ce tryptophane qui est à côté n'arrache pas, enfin l'oxygène point n'arrache pas un atome d'hydrogène, mais il y a un électron qui est transféré sur la tyrosine, qui se protonne, et ici on crée un radical, lui-même va recevoir un électron d'une tyrosine adjacente et va être protoné, et ainsi de suite. Donc par des biais de transfert d'électrons et protonation, déprotonation, c'est ainsi que le radical peut arriver jusqu'à cette cystéine. Et dans cette histoire, de toute façon, le radical tyrosinyl est là pour stocker un équivalent oxydant, un radical sous forme stable, et dès que la machinerie se met en route, fonctionne, tout est construit pour que ce radical finisse sur une cystéine qui est ici et qui est juste à côté du substrat. C'est ça l'idée de ce transfert. Bon, un autre schéma pour vous montrer cette histoire que j'évoquais. Ici, donc, c'est ce que je disais, un transfert d'électrons de ce tryptophane à la tyrosine. La molécule d'eau fournit un proton à la tyrosine qui est maintenant anionique, c'est un phénolate, et ainsi de suite. Ici, transfert d'électrons de cette tyrosine au tryptophane et assisté par un transfert de protons qui vient du solvant, et ainsi de suite. Par contre, ici, c'est réellement des radicaux organiques. À la fin, on a un radical sur cette tyrosine 730. Donc, vous voyez, on est passé de la protéine R2 jusqu'à la protéine R1, tyrosine 730, qui arrache un atome d'hydrogène sur la cystéine. Et ici, on crée un radical cystéinyl à nouveau qui est proche du substrat. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a tout un tas de contrôles thermodynamiques dans cette réaction. Ici, par exemple, pour passer d'un radical tyrosinyl à une cystéine, si vous regardez les potentiels redox, ça ne colle pas, c'est endergonique. Ça veut dire qu'il y a une barrière d'énergie. Et simplement, c'est parce que lorsque ce radical attaque le substrat, vous déplacez continuellement l'équilibre, parce que, par contre, ici, l'arrachement d'un atome d'hydrogène, c'est ça qui va se passer sur le substrat, est une réaction exergonique et la somme de l'ensemble est exergonique. Donc, c'est un parfait contrôle par la thermodynamique et ça se place à tous les niveaux. Je donne un autre exemple. Vous voyez ici, il y a un contrôle du potentiel redox de cette tryptophane protonation ou déprotonation. Vous voyez ici, le potentiel redox de ce couple est de 1,15 volts. Si vous déprotonez, vous avez un potentiel de 0,95 volts. Donc c'est la déprotonation du tryptophane, donc à nouveau les transferts de protons qui permettent une réaction qui était initialement endergonique pour la rendre exergonique, pour la rendre possible. Donc c'est par le biais donc, de déplacement d'équilibre et de transfert de protons, de protonation, déprotonation, que tout ça se contrôle. Donc c'est quelque chose d'assez fascinant, qu'on comprend de mieux en mieux, mais c'est d'une très très grande complexité. Mais retenez simplement qu'il y a un radical stable sur R2 et qu'il va sur R1 sur une cystéine. Je vous l'ai dit en 2020, alors, j'aurais pu ici vous dire que dans cette structure-là, le problème, c'est que, en particulier, dans la structure de R2, il manquait une grosse partie de la partie de la fin C terminale de R2, qui est celle qui joue un rôle extrêmement important, cette partie C terminale, parce que c'est celle qui permet la fixation à R1, d'une part, et d'autre part, cette partie C terminale, elle contient un certain nombre d'acides aminés, ici, vous voyez, avec ces chiffres, là, 356, notamment, parce que les 730, ces deux-là sont sur R1, Y356, et sur cette partie C terminale, et on ne la voit pas, c'est-à-dire que les travaux sur cette chaîne de transfert d'électrons se sont faits avec des hypothèses sur cette chaîne. Or, en 2020, voilà, est apparu, et ça a été publié dans Science, est apparue une structure, alors, obtenue par cryo électromicroscopie, débouchant sur une structure à 3,6 angstroms de résolution, ce qui est assez formidable, même si cette technique aujourd'hui peut conduire avec des systèmes peut-être un peu plus simples à des résolutions plus grandes, meilleures. Mais avec 3,6 angstroms de résolution, On a pu avoir l'information sur la structure du complexe R1-R2. Alors, il n'y a pas énormément de différence. Ici, vous avez l'ancien modèle. Et ici, vous avez le modèle fourni par cette nouvelle structure publiée il y a un an. Et là, pour le coup, ce que vous voyez, c'est que, bon, ce n'était pas si mal, mais ce n'était pas exactement ça. Et en particulier, le complexe est asymétrique, c'est-à-dire que bêta 2 n'est pas réparti de façon égale sur alpha 2. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que la partie C-terminale, si importante, celle qui permet de fixer à nouveau R2 à R1, est visible. Vous la voyez ici en orange. Et elle a... c'est assez formidable puisque cette tyrosine 356 qu'on ne voyait pas, on la voit très bien. On voit qu'elle est très proche des tyrosines 730 et 731 qui sont sur la voie de transfert du radical. On le voit à nouveau ici avec le substrat. Et là, on a une magnifique image finalement du transfert de radical véritablement sur une structure, et c'est pas juste une spéculation. Donc vous avez la tyrosine. Alors, vous voyez, c'est une tyrosine qui est fluorée. Je rentre pas dans le détail, mais pour obtenir une telle structure, il a fallu, parce que le système alpha 2, bêta 2, R1, R2 est très flexible, très mobile, il a fallu bloquer d'une certaine façon la protéine, et ça s'est fait à travers des mutations. Je crois que c'est... je ne sais pas si on le voit ici, mais ce n'est pas très important. Bon, enfin, il y a un certain nombre de mutations qui ont été faites, et par ailleurs... Oui, et par ailleurs, il y a ici une tyrosine fluorée qui a été... la tyrosine a été, par des méthodes de biologie moléculaire sophistiquées, remplacée par une tyrosine fluorée, je ne rentre pas dans le détail. Mais néanmoins, là, pour une fois, on voit parfaitement bien la chaîne de transfert d'électrons jusqu'au bout, ce qui n'était pas le cas précédemment. C'était plutôt des modèles. Hein. Donc, c'est une véritable avancée. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, vous voyez, par exemple, ce glutamate 350 avait été montré par mutagénèse dirigée comme étant extrêmement important, mais on ne savait pas pourquoi. Et en fait, elle participe à la fixation entre R1 et R2 avec ce K154, cette lysine 154. Et c'est la même chose entre différents acides aminés. Donc on voit cette chaîne, on voit la chaîne de transfert de radical. Donc maintenant, on a une information qui est extrêmement sérieuse. Alors, la suite de l'opération, la suite des opérations, c'est... on a créé une cystéine, vous voyez, après radical, et puis on arrive ici sur cette cystéine. Et là, ce qui est formidable et que montre la structure, c'est que cette cystéine, elle est extrêmement bien placée pour arracher un atome d'hydrogène sur le ribose. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que cet atome d'hydrogène est arraché, ça crée un radical ici, et c'est la création de ce radical ici qui permet à cette liaison carbone-OH d'être fragilisée et d'être réduite en liaison carbone-hydrogène. Alors, vous voyez qu'il y a un truc qui est quand même très, très curieux, c'est que vous passez d'un ribose à un désoxyribose, c'est une réduction à deux électrons, et la nature n'a rien trouvé de mieux que de commencer par une oxydation à un électron. Et ensuite, vous êtes obligé, évidemment, si vous faites 3-1, ça, il faut 3 électrons, une réduction à 3 électrons, eh bien, ces 3 électrons, ils viennent d'une part d'un dithiol, c'est une thiorhédoxine, donc c'est une autre protéine qui est absolument essentielle, qui envoie donc l'équivalent de 2 électrons et un proton. Cet atome d'hydrogène ici est redonné après avoir été enlevé et redonné sur cette position 3' en même temps que le dithiol ici réduit. Et alors vous voyez dans la structure à nouveau les deux cystéines ici de la protéine R1 qui sont constamment réduites par la thiorhydroxine, elles se trouvent très proches aussi du ribose. Voilà. Donc ça, c'est aussi quand même étonnant, c'est ce système de réduction à 3 électrons, oxydation à 1 électron, pour faire au bilan une réduction à 2 électrons. Mais je n'ai pas le temps d'expliquer, mais il y a des explications assez rationnelles pourquoi, dans le cas d'un ribose, on ne peut pas simplement envoyer un hydrure. Ça ne marche pas. Les chimistes ont essayé de, par exemple, faire des réductions à 2 électrons des riboses. Ça ne marche pas. Il faut des activations particulières, etc. La nature a choisi de faire ça par activation radicalaire du substrat. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas le temps. Ouais, je voudrais juste rendre hommage à un travail absolument faramineux de Johann Stube et puis plus récemment Daniel Nocera au MIT, qui ont étudié ces systèmes de transfert d'électrons couplés à des protons ou transfert de radicaux à très longue distance par tout un tas de méthodes. Alors évidemment, et tout un tas de méthodes à un moment donné où on n'avait pas l'information structurale complète, hein, puisqu'on travaillait sur des modèles. Mais des modèles et puis des analyses de génome. Et donc il y a eu de la mutagénèse, bien sûr. Et puis il y a quelque chose qui est assez formidable, c'est le fait que les technologies de biologie moléculaire ont permis, ont permis de remplacer dans la chaîne polypeptidique une tyrosine, un acide aminé naturel, par différents acides aminés plus ou moins substitués. Et ça, les auteurs ont fait ça parce que ça permettait de changer les potentiels redox de la tyrosine. Et cette tyrosine a été placée aussi bien en position 122 sur R2 qu'en position 356 sur R2 à nouveau, mais également sur 730 et 731 sur la protéine R1. Enfin, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Et les mécanismes, j'y reviendrai, aussi ont été étudiés par toute une série d'analogues de substrats, vous voyez, qui modifient le mécanisme réactionnel, permettent de stabiliser des intermédiaires réactionnels. Donc, vous voyez des composés fluorés ici sur le sucre ou sur la base, des composés dans lesquels des composés chlorés en position 2', azido, difluoro. Méthylène, voilà, il y a eu énormément de choses. Et c'est l'ensemble de tout ça qui a permis de clarifier. Alors, ici, par exemple, je voudrais citer juste le cas d'un travail qui a été fait par... et que vous pouvez voir dans une revue qui est sortie, signée par Johann Stube et Nocera dans Annual Review of Biochemistry, récemment. C'est l'utilisation de cette tyrosine, vous voyez, aminotyrosine. Et l'intérêt, c'est que son potentiel redox est inférieur de 590 millivolts par l'effet de l'amine, hein, ici, de 590 millivolts par rapport à la tyrosine normale. Et donc, vous voyez que si vous avez donc des radicaux sur R2 ici, hein, c'est le point de départ, notre fameuse tyrosine 122, si vous avez le système naturel, ce radical va aller jusqu'à la cystéine et va faire la chimie. Si au contraire, vous placez une aminotyrosine ici, ce radical va passer, parce qu'il est facilement oxydable, et vous allez stocker un radical ici, il ne va pas être capable de passer au suivant, et ainsi de suite. C'est-à-dire, si vous mettez cette aminotyrosine, vous allez stocker un radical ici. Et si vous le mettez là, vous allez stocker un radical ici qui ne peut pas aller plus loin. Et en faisant cela, ils ont été capables non seulement de détecter des radicaux sur tout le chemin, et ça c'est vraiment formidable, donc validant l'hypothèse du transfert à très longue distance, et par ailleurs, ils ont pu aussi valider à nouveau, hein, dans un moment où les distances étaient uniquement modélisées par le fameux modèle structural et qui n'avait pas la vraie structure, et les distances ont été évaluées par des méthodes de spectroscopie, notamment paramagnétique, Pelldor en particulier, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, c'est de la spectropulsée, qui ont permis de, une fois que vous avez voyez, envoyé ce radical dans ces acides aminés et stocker ce radical parce que c'est une aminotyrosine, vous pouvez regarder des couplages entre le nouveau radical formé et le radical qu'il y a dans la deuxième chaîne, et par ce biais-là, vous pouvez déterminer des distances entre radicaux par des techniques assez sophistiquées. Donc, vous avez compris qu'il faut ce radical sur la tyrosine qui va sur la cystéine et qui attaque le substrat, et évidemment, la question, une autre question, c'est comment ce radical tyrosinyl est formé, parce qu'il faut le former. Lorsque la protéine est synthétisée, évidemment, elle contient une tyrosine normale. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'atome de fer. Ces atomes de fer, ici, donc ça, c'est la protéine uniquement, la protéine R2. Vous voyez, à nouveau, donc deux atomes de fer avec différents ligands, aspartate, glutamate, histidine, et la tyrosine très, très proche du fer. Et ce qui a été très, très bien démontré, c'est que cette enzyme est donc oxygène dépendante parce que c'est grâce à une réaction entre les atomes de fer et l'oxygène qu'on peut oxyder la tyrosine en radical tyrosinyl. Donc l'oxydant de la tyrosine, c'est bien l'oxygène. Sauf que cette réaction, si vous mélangez une tyrosine, vous voyez, si vous prenez ça et que vous mettez de l'oxygène dessus, il ne se passe strictement rien. Ça, c'est la protéine R2 sans atome de fer, ce que vous pouvez produire. Si vous mettez de l'oxygène là-dessus, il ne se passe rien. Ça, c'est de la chimie assez triviale. La cinétique des réactions d'autoxydation des molécules organiques est extrêmement lente. Heureusement, sinon, on ne serait pas là pour en parler. On serait en train de cramer en permanence. Donc, c'est une chimie. Donc, il vous faut des catalyseurs. Et donc ici, la nature a choisi des atomes de fer pour catalyser cette réaction d'oxydation de la tyrosine par l'oxygène. Je ne rentre pas dans le détail de cette chimie-là, vous la trouverez dans la littérature. Ça passe de toute façon par des atomes de fer ferreux, fer 2, qui ont seul, parce que le fer 3 ne peut pas, seul la capacité de fixer l'oxygène moléculaire et de l'activer. Et une fois qu'il est activé, on crée une espèce oxydante qui permet d'arracher un atome d'hydrogène sur la tyrosine. Donc ces enzymes-là sont d'une très grande complexité, elles sont oxygène dépendantes. Donc vous avez vu, ça nous amène aux années 90, presque 2000, et pendant cette période, la ribonucléotide de classe 2 a été découverte. Un truc totalement différent. Alors, la ribonucléotide réductase de classe 1, c'est la ribonucléotide qui a été essentiellement travaillée chez Escherichia coli. Mais tout ce que je vous ai dit sur la ribonucléotide réductase, c'est exactement ce qui se passe dans vos cellules. C'est la ribonucléotide réductase de classe 1A, c'est celle qui permet chez tous les eucaryotes, y compris chez Homo sapiens, de produire les désoxyribonucléotides. Mais des classes 1A, il y en a aussi chez tout un tas de bactéries. Coli est un exemple. Et là, on tombe sur une autre classe d'enzymes. Et à nouveau, on peut se demander pourquoi est-ce nécessaire dans le vivant, pour faire la même chimie, d'avoir une autre classe. Mais c'est le cas. Et c'est une enzyme qui fait exactement la même chose chez certaines bactéries. Et là, la bactérie a absolument besoin d'un cofacteur, qui est le cofacteur de l'enzyme, qui est l'adénosyl, ce que vous voyez ici, cobalamine. Alors ça, c'est un cofacteur qui a fasciné les chimistes pendant très très longtemps, aussi bien du point de vue de la question de sa biosynthèse que de sa réactivité. Mais ce que vous devez essentiellement retenir, c'est que, vous voyez, c'est un complexe de cobalt hexacoordiné avec un macrocycle azoté ici, 4 atomes d'azote dans le plan, et puis deux liaisons axiales, une par ce benzimidazole qui est en fait accroché au ligand. On ne le voit peut-être pas bien, mais si, il y a une chaîne ici qui ramène un benzimidazole en position axiale. Et puis surtout, le plus important pour la réactivité de ce cofacteur, c'est qu'il y a une liaison cobalt-carbone qui associe le cobalt au groupement 5' déoxyadénosyle. Alors ça, c'était à l'époque, quand les gens ont découvert l'adénosyle cobalamine, c'était quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'était le premier exemple d'un cofacteur organométallique dans lequel il y a une liaison entre un métal et un carbone. Et il faut savoir que cette liaison cobalt-carbone n'est pas très forte, elle est de l'ordre de 30 kcal par mol. Et lorsque ce cofacteur rentre dans une protéine qui fragilise cette liaison, il a la capacité, ce cofacteur, vous voyez ici, ce cofacteur, de casser cette liaison cobalt-carbone de façon homolytique pour donner du cobalt 2, ici il est cobalt 3, du cobalt 2 et le radical, et à nouveau un nouveau radical, 5' déoxyadénosyle, ici, vous voyez ce radical. Et c'est lui qui va arracher directement la cystéine, parce que là aussi, il y a une cystéine qui est proche du substrat. Donc, c'est une autre façon de créer un radical cystéinyle, mais là, il n'y a pas de chaîne de transfert de radicaux à très longue distance. Le 5' déoxyadénosyle est juste à côté pour arracher un atome d'hydrogène sur la cystéine. Et la cystéine va ensuite, sous forme radicalaire, faire la même chimie que dans la classe 1A, arracher un atome d'hydrogène en position 3' du sucre et continuer. Vous voyez, il se passe exactement la même chose, cette chimie-là, il y a une cystéine, et c'est exactement ça dans la classe 2. Il s'avère que, vous voyez, au milieu des années 2000, il y a eu des structures aux rayons X de ces enzymes, et ce que vous voyez, c'est que la ribonucléotide réductase de classe 2, en fait, il n'y a pas, comme dans la classe 1, une où il y a des radicaux et une où il y a le site de substrat, tout est au même endroit, là, et très proche. Vous voyez que ici, c'est la structure de l'adénosyle cobalamine, et vous avez le substrat, là. Dans une autre forme, vous voyez ici la cobalamine, mais qui a perdu son ligand adénosyle cobalamine, mais vous voyez le produit de l'arrachement d'hydrogène, vous voyez l'adénosine, et vous voyez le carbone où il y a le radical, il est très proche de cette cystéine, et cette cystéine est très proche du substrat. Donc vous comprenez bien que ce qui se passe, c'est ce que je vous ai raconté, à savoir que vous cassez la liaison cobalt-carbone, vous créez un radical ici, ce radical arrache un atome d'hydrogène sur la cystéine, exactement comme dans classe 1, sauf que ça ne se fait pas via une chaîne de transfert de radicaux sur une très longue distance. Voilà. Dernière chose dont je vais parler, c'est la classe 3. Alors, c'est évidemment une classe, mais alors ceux qui, là aussi, sont fidèles à ce cours le savent. Évidemment, c'est une enzyme extrêmement importante pour ceux qui me concernent, puisque j'ai participé à sa découverte. Vous avez compris que la classe 1 dépendait absolument de l'oxygène. Donc, avec Peter Eichard, on s'est posé la question comment font certains micro-organismes, et en particulier Escherichia coli, qui n'a pas de classe 2, mais qui est capable de vivre en absence d'oxygène. Escherichia coli est un micro-organisme anaérobe facultatif, donc est capable de pousser sans oxygène. N'ayant pas de classe 2, ayant une classe 1, mais qui dépend absolument de l'oxygène, comment Escherichia coli pousse en absence d'oxygène? C'est ça que nous nous étions posé, et personne n'avait soit posé la question, soit résolu le problème. Et en fait, première chose avec Peter, et donc tous, vous voyez, là on est dans les années 90, on a démontré, je ne rentre pas dans le détail de cette diapositive, peut-être c'est un peu complexe, on a là aussi démontré qu'en anaérobiose, c'était bien les ribonucléotides qui donnaient les désoxyribonucléotides. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a essayé de purifier l'enzyme qui fonctionne en anaérobiose, puisqu'en effet, il s'agissait d'une enzyme nouvelle, vous voyez, 1990, 1993. Et qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que, à nouveau, c'était une enzyme radicalaire. Et lorsque l'enzyme est active, on a montré la présence d'un radical RPE. C'est un radical totalement différent de celui de la classe 1. Ce n'est pas une tyrosine. Alors, je vous dis tout de suite, c'est qu'on a identifié que c'était un radical sur une glycine. Mais là aussi, donc, c'est une enzyme qui fonctionne avec un radical. On a besoin de réductase, ça, on l'avait démontré. On a besoin de S-adénosylméthionine. On a besoin, donc vous voyez, on a besoin de flavodoxine réductase, on a besoin de flavodoxine, on a besoin d'un radical, on a besoin de S-adénosylméthionine, et puis on a finalement démontré un peu plus tard encore qu'on a besoin d'acide formique, de formiate. Et le résultat des courses, c'est que cette enzyme n'a pas de paire de cystéine pour faire la réduction de cette liaison carbone-OH. Il n'y a qu'une seule cystéine dans le site. Il y a bien une cystéine très proche du substrat. Et donc, la chimie qui est mise en œuvre dans cette enzyme, c'est exactement la même chose que les autres, c'est-à-dire vous avez un arrachement d'atomes d'hydrogène en position 3' pour activer le ribose. Mais là, la réduction à 3 électrons, elle se fait d'une part grâce au don de cet atome d'hydrogène ici, qui revient, mais à l'hydrure qui est donnée par le formiate. Donc là, on a un système totalement différent du point de vue du système de transfert d'électrons. Alors, je vous ai parlé d'un radical glycyl, mais là, je vous montre un radical cystéinyl. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça se passe, puisque ce que la structure aux rayons X... En quelle année? Oui, vous voyez, dans les années 2000, donc c'est le travail de Nordlund, a montré, a produit la structure aux rayons X de cette ribonucléotide réductase. Mais alors, j'ai oublié, je suis allé un peu vite, mais cette ribonucléotide réductase, c'est aussi alpha 2, bêta 2. Alors, sachez tout de suite qu'il n'y a pas de structure de bêta 2. Il n'y a qu'une structure de alpha 2. Le alpha 2, c'est un peu l'équivalent du R1 de la classe 1A, c'est-à-dire c'est là où se fixe le substrat et où se fait la réduction du ribonucléotide. Et lorsque vous voyez cette structure aux rayons X et que vous zoomez sur la partie du site actif, vous avez votre substrat, d'accord ? D'un côté, vous retrouvez à nouveau une cystéine, exactement comme pour toutes les autres dont je vous ai parlé, toutes les ribonucléotides réductases. Et votre radical glycinyl, il est là. Glycine 580. Ah, mais là, vous voyez A. A, pourquoi? Parce que pour la cristallisation de cette protéine, on a essayé d'éviter d'avoir une glycine, parce que si on crée un radical, ça devient très réactif, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est un mutant dans lequel cette glycine et a été changé en alanine. Mais néanmoins, vous voyez à nouveau le même type de stratégie, créer un radical ici pour arracher un atome d'hydrogène, et à la fin, c'est toujours une cystéine. Dans tous les cas, quel que soit le système de formation de radical, c'est toujours une cystéine qui est radicalisée pour attaquer le substrat et le transformer. C'est ce qu'on voit ici, donc ça apporte quoi? Rien, si ce n'est que j'ai changé ici cette alanine 580 par une glycine, et donc vous voyez la disposition relative des choses. Ce que doit faire ce système, c'est de créer un radical glycinyl ici stable, et une fois qu'il y a le substrat, ce radical arrache un atome d'hydrogène sur la cystéine, et celui-là peut à nouveau attaquer le substrat. Je remontre, vous voyez, ici, on a le radical glycinyl, il arrache un atome d'hydrogène, on crée un radical là, il arrache un atome d'hydrogène sur le substrat, on est ici maintenant, on a une réduction par le formiate et le radical revient à sa place au bout d'un cycle. Voilà un peu comment les choses se passent. Donc, la ribonucléotide réductase anaérobie, et je vais terminer là-dessus, c'est un système complexe dont on a de type donc, alpha 2, bêta, bêta 2, on ne sait pas très bien quand c'est associé, parce qu'on n'a pas de structure aux rayons X du complexe de Lolo. C'est une chose que, sans doute, il faudrait, mais il y a très peu de gens maintenant qui travaillent sur ces systèmes-là, qu'il faudrait obtenir. On n'a pas même de structure aux rayons X de la protéine bêta. Donc, ce qu'on sait très bien, c'est ce qui se passe sur alpha. On sait très bien que la protéine alpha, c'est-à-dire là où se fait la réduction du ribonucléotide, on a un radical stable. C'est un radical glycinyl qui se voit parfaitement bien par résonance paramagnétique électronique. Et ça, c'est une très très belle signature d'un radical glycinyl. Donc vous voyez que par rapport à la classe 1, dans la classe 3, votre radical stable, il est sur la protéine R1 et pas sur la protéine R2, sur la protéine alpha et pas sur bêta. Mais dans tous les cas, c'est la même stratégie. Alors, la question qui se pose, c'est comment se forme ce radical sans oxygène ? Parce que pour former un radical glycinyl à partir d'une glycine, il faut une oxydation, il faut un oxydant. Et en fait, ce qui permet la formation de ce radical, c'est justement la protéine bêta. Et la protéine bêta a été un... Alors là, je vais reparler, d'ailleurs j'en ai parlé la semaine dernière, de cette fameuse classe d'enzymes radical SAM. Eh bien, l'activase, alors ça vous pouvez aller voir dans plein de mes cours, j'ai beaucoup parlé de ça, l'activase c'est une enzyme radical SAM. En fait, c'est une enzyme qui contient un cluster fer-soufre qui fixe la S-adénosylméthionine. C'est pour ça qu'on avait trouvé qu'il fallait de la S-adénosylméthionine. Cette S-adénosylméthionine se fixe sur le... J'ai montré cette dia la semaine dernière. Se fixe sur le fer-soufre. Ce fer-soufre doit être réduit, il doit contenir un électron qui est envoyé dans la S-adénosylméthionine. Ça casse la liaison soufre-carbone et ça crée ce radical 5' déoxyadénosyle. Si vous avez bien suivi, vous remarquerez, tiens, c'est le même radical que celui qui est produit par la classe 2 à partir de la liaison cobalt-carbone qui se casse. C'est exactement le même. Et c'est lui qui arrache un atome d'hydrogène à la glycine pour former le radical glycinyl. Pourquoi on a besoin de flavodoxine et de flavodoxine réductase ? Eh bien, c'est parce que votre cluster fer-soufre doit être réduit. Donc, ici, c'est un modèle de la protéine bêta. Vous avez un fer-soufre et en fait, vous avez du NADPH qui réduit une flavoprotéine qui est la flavodoxine réductase, qui envoie un électron dans la flavodoxine qui est une enzyme à FMN et cette flavodoxine à un électron réduit le cluster 4-fer-4-soufre qui ensuite fixe la SAM et crée le radical 5' déoxyadénosyle. Comme on ne sait pas comment cette protéine bêta s'associe à protéine alpha, eh bien, on ne sait pas très bien comment se fait le transfert de radical. Parce que ici, vous avez la protéine bêta avec son 4-fer-4-soufre. Vous lui fixez la SAM, la S-adénosylméthionine, vous créez le radical, mais ce radical, il est sur la protéine bêta. Et il faut qu'ensuite, ce radical qui est d'une très très grande réactivité, qui peut arracher un atome d'hydrogène n'importe où, eh bien, sans faire ça, aille taper sur une glycine qui est très enfouie au sein de la protéine, la deuxième protéine. Et ça, c'est assez incroyable, mais c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, on n'a pas la protéine dans son ensemble, et certainement, il y a des modifications conformationnelles très fortes au moment où se forme ce complexe, sauf que ce complexe, d'après ce qu'on en sait, est un complexe flexible, transitoire, qui dépend peut-être de la présence de radicaux ou non, enfin bon, donc on ne sait pas très bien. Il y a vraiment... Ben voilà, vous voyez qu'ici, on a une vraie question essentielle, comment un radical, ici, qui n'est pas protéique, hein, contrairement à la classe 1 où c'est sur la tyrosine, qui n'est pas protéique, qui est un radical organique, voilà, va chercher un atome d'hydrogène sur une glycine, sur la chaîne principale du polypeptide ici alpha. Voilà. Je termine sur deux choses. La première, vous aurez compris que y a quelque chose qui se ressemble entre la classe 2 et la classe 3, c'est que les deux classes ont choisi, pour arracher un atome d'hydrogène sur un acide aminé de la protéine, une cystéine ou une glycine, ont choisi un radical 5' déoxyadénosyle. Sauf qu'elles le font à partir de mécanismes très très différents. Ce radical est formé par cassure de la liaison cobalt-carbone dans la classe 2, issue de l'adénosylcobalamine, tandis que dans la classe 3, c'est l'association d'un cluster fer-soufre et de la S-adénosylméthionine et d'un électron qui conduit à ce même radical. Et la dernière dia, c'est pour résumer oui, voilà, c'est pour résumer. Alors, il y a deux dias, mais c'est la même chose. Avec des mécanismes de formation de radicaux totalement différents, à la fin, tous ces systèmes qui font la même chimie sont organisés d'une certaine façon, de la même façon. Ici, on a superposé les sites actifs des trois enzymes. Qu'est-ce que vous observez ? Donc, on a superposé le substrat. Dans les trois cas, dans les trois classes, on a cette cystéine qui est exactement au même endroit. Et donc, toute la clé, quel que soit le mécanisme d'apport du radical ici, c'est de créer un radical sur cette cystéine qui va faire la chimie derrière. Et comment ce radical sur cette cystéine est fait ? Eh bien, si vous regardez juste le précurseur de ce radical, eh bien, dans la classe 1, c'est la tyrosine 730 qui vient au bout d'une longue chaîne de transfert de radicaux. Hein, vous voyez, c'est ce qui est représenté ici. Vous avez le radical tyrosinyl à côté du fer, mais vous avez un radical transfer. RT, c'est pour radical transfer à très longue distance pour arriver sur cette 731. La glycine de la classe 3 est exactement au même endroit. Et ici, le 5' déoxyadénosyl est exactement au même endroit, tout ça sur la base des structures cristallographiques. Donc c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que vraiment l'idée, c'est représenté ici, on doit faire un radical cystéinyl à côté d'un substrat, et on peut le faire soit par un mécanisme de type classe 1, c'est-à-dire transfert de radicaux à longue distance, soit à partir d'adénosylcobalamine, soit à partir de fer soufre et de radical SA. Et dans tous les cas, la ribonucléotide réductase fait la réduction d'un ribonucléotide en désoxyribonucléotide en utilisant ce radical pour arracher un atome d'hydrogène en 3' et ensuite permettre la réduction de cette liaison carbone-OH en carbone H. Ça peut être soit avec des dithiols qui sont de l'autre côté, deux cystéines, soit avec de l'acide formique. Voilà. Donc il y a à la fois énormément de diversité et en même temps une contrainte très forte qui est cette production de radical cystéine. Voilà. Donc je m'arrête. Voilà où on en est, je dirais, pratiquement dans les années 2010. Et entre 1960 et 2010, on a travaillé avec ces trois systèmes. Et comme vous allez le voir, à partir de 2010 jusqu'à très très récemment, la classe 1 va faire apparaître une classe 1B, 1C, 1D, 1E. Et c'est de ça dont je parlerai la prochaine fois. Voilà, merci.